Bon vendredi à tous et à toutes. Bienvenue à cette édition de La Vie en BD. Raymond Poirier avec vous pour la prochaine heure. Dans cette émission qui prendra un peu des consonances, j'ai l'impression presque un peu horrifique. Côté ambiance à tout le moins, puisqu'en deuxième moitié, on aura l'occasion de recevoir Michel Giguère. Donc Michel qui est derrière, on le sait, les rendez-vous de la BD et qui, la semaine prochaine, le 11 novembre, va offrir une rencontre sur la Londres du 19e siècle. Alors, j'ai l'impression qu'on est un peu l'Halloween en retard, puisque ce Londres-là, dans mon esprit, c'est celui de Dorian Gray, de Dracula, de Frankenstein, de Dr. Jekyll et Mr. Hyde, de Jack l'Éventreur. Donc, il y a un côté un peu horrifique qui se prête bien à cet univers littéraire. Et évidemment, c'est un univers qui est un aspect qui va être exploré par Michel. Alors, lui va nous mettre en contexte, donc, un peu tout ça, le récit, l'histoire et le pourquoi aussi de cette thématique-là de son côté. Donc, ça, ce sera en deuxième moitié d'émission. Et dans quelques instants, eh bien, on reste dans ces ambiances tendances un peu horrifiques avec un regard sur l'adaptation BD de Alice. Donc, 20 ans après l'édition roman, le 500 pages de Patrick Sénécal, eh bien, Sénécal s'associe à Jake Dion pour en offrir une version BD. Alors, de quelle manière on a procédé à l'adaptation de cette immense opus de cette version sombre, malsaine peut-être un peu, d'Alice au pays des merveilles? Eh bien, on en parle à l'instant avec Jake Dion et Patrick Sénécal. Alors, c'est le menu pour cette semaine à La Vie en BD. Alors, on plonge maintenant vers une adaptation bande dessinée d'un ouvrage qui a désormais une vingtaine d'années. Il s'agit du livre Alice, un livre de Patrick Sénécal, qui a donc passé du côté de la BD chez Fronfroid et à lire. C'est de Patrick Sénécal et de Jake Dion. Ils sont avec nous pour en jaser. Bonjour, Patrick Sénécal.
Bonjour, bonjour.
Bonjour, Jake Dion.
Salut.
Alors, peut-être la première grande question, en fait, je la lancerai peut-être du côté de Jake d'entrée de jeu, mais je vous invite évidemment, Patrick, à happer par la suite. Mais l'idée au départ de l'adaptation BD d'Alice était venue de ton côté, en fait, avait orchestré un peu une façon de lancer l'idée, de lancer un pavé dans la mare, même si après ça, des années avant que ce pavé dans la mare-là devienne la réalité qu'on a devant nous aujourd'hui.
Oui, exact. Ça fait à peu près 7-8 ans, la première fois que j'ai contacté Patrick. Puis, on s'était rendu loin. J'avais rencontré les éditeurs, j'avais rencontré l'agent de Patrick. C'était super cool. Puis là, à cause de la vie et tout, on s'est comme perdu de vue. Puis là, on s'est revus une couple d'années plus tard, comme 4-5 ans plus tard, dans un salon du livre. Puis là, je me rappelle pas pourquoi, mais on a comme repris contact. Je pense
à Jonquière. C'était à Jonquière, c'est au salon de Jonquière.
Ouais. Puis ça avait été cool. Puis là, tout de suite après, j'ai comme eu un contrat d'aller pour illustrer Il y aura des morts, ouais. Le roman que tu sortais à l'époque. Puis là, moi, je suis très chanceux là, en tant qu'illustrateur. Là. Quand j'illustre un roman de Patrick, il vient chez nous, puis il me raconte toute l'histoire. Puis là, je prends des notes pour savoir ça va être quoi la pochette. Fait que tu sais, c'est un méchant privilège d'avoir l'auteur lui-même te raconter, puis il te raconte toutes les punches. Puis là,
c'est un privilège pour le pour moi aussi, parce qu'il y a beaucoup d'illustrateurs qui parce qu'ils n'ont pas le temps, peu importe les raisons, je ne les juge pas, mais qui se font juste dire par l'éditeur ça raconte ça en gros l'histoire. Puis ils font Jake, il veut rencontrer l'auteur, il veut jaser avec lui, il veut avoir des cues, il veut avoir des trucs pour être alimenté. Fait que moi aussi, je me trouve bien chanceux, dans le fond. Ben puis oui. Comme il a dit, en passant, c'est ça, moi quand je t'ai revu, Jake, dans le salon du livre, l'idée m'est rebondie dans la tête. J'ai fait, c'est vrai, si on avait un projet ensemble, puis là, au début, j'ai dit à Jean, mon éditeur, j'aimerais ça qu'il fasse ses pochettes de mes livres à partir de maintenant. Puis comme il était enthousiaste, j'ai ramené timidement l'idée de la BD, puis Jake, il a sauté là-dessus. Il a dit, ben oui, ça me tente encore.
Mais ça. Et qu'est-ce qui faisait peut-être, d'un côté, pour Patrick Sénécal, l'intérêt de prendre Alice et de l'amener en BD? Puis du côté de Jake Dion, la même question aussi, l'idée de prendre Alice et de l'amener en BD. Donc, qu'est-ce qui fait qu'on a envie d'amener cet ouvrage-là, ce récit-là du roman vers l'univers de la bande dessinée?
Bien, Jake, il m'a demandé, la première fois qu'on s'est vu, il dit « Lequel de tes romans tu verrais bien en BD? Lequel tu penses qu'il peut faire une bonne bande dessinée? » Puis j'ai pensé assez vite à Alice. Parce que Alice, bon, c'est un roman excessif qui n'est pas évident à mettre en film. Alors, je me dis, je ne suis pas sûr qu'on va mettre... On va pouvoir faire un film un jour avec ça. Ou en tout cas, si on en fait un, il va falloir qu'il y ait une certaine retenue. Alors que en BD, je me disais, ben, il y a quand même une plus grande liberté par la force des choses. Fait que je me suis dit, bon, si jamais, comme il n'y aura sans doute jamais de film sur la liste, puis qu'il y avait eu un projet, mais qui était tombé à l'eau, je voulais au moins qu'il vive autrement par un autre style d'image, une autre narration, qui n'est quand même pas si éloignée du cinéma que ça, même si. Alors, j'avais proposé à Alice. J'avais vu des dessins de Jake aussi, puis je trouvais que. Il y avait quelque chose qui fitait très bien dans cet univers-là, en plus.
Oui, puis, tu sais, aussi, c'est, mettons, un autre roman qui aurait été plus réaliste. Je pense que, pas dans le sens que ça aurait été une occasion gâchée, mais, tu sais, ce qui est le fun d'Alice, c'est que, justement, on peut aller dans la zone du rêve, dans la zone un peu de la réalité décalée, là, tu sais, la zone onirique, un peu, là. Ouais. Fait que ça, c'est le fun à illustrer, puis... T'sais, ça coûte pas plus cher en BD que, mettons, comparé au cinéma, là, où c'est que là, faut que tu penses à des effets spéciaux, faut que tu penses à de l'équipement et tout. Fait qu'on peut se le permettre, on peut être libre là-dedans.
Puis j'imagine que pour un BDS, dis-moi si je me trompe, Jake, mais j'imagine que pour un dessinateur de bande dessinée, ce qui est le fun, c'est de créer des personnages aussi visuellement intéressants qui sortent de l'ordinaire. Puis dans la liste, sont tous un peu déjantés, les personnages sont tous. Ouais. Il n'y en a pas un qui a de l'air, dans ce cas, dans les principaux. Faut pas que ce soit du monde qu'on puisse rencontrer dans la rue sans se retourner sur leur passage, hein, sans dire « Wow, il y a ou elle a quelque chose de spécial en tabarnouche. » Fait que Jake fait créer des personnages comme ça qui ont toutes quelque chose d'un peu pas normal chacun. Fait que je pense que c'est un beau terrain de jeu pour un BDS, en fait.
Oui, voilà. L'univers s'y prêtait par les personnages, par l'onirisme, puis en même temps, la liberté que le médium permet d'aller chercher les séquences. Mais en même temps, j'imagine que c'est toujours un peu, quand on parle de liberté, le défi de doser cette liberté-là, parce qu'on peut aller très loin, le récit s'y prête, mais si on va trop loin, on perd un peu l'impact qu'on voulait avoir parce qu'on est rendu ailleurs. Donc, j'imagine, par exemple, au niveau des dessins de sexualité, au niveau de la violence et autres éléments, c'est trouver la ligne jusqu'où on voulait aller, jusqu'où on devait aller.
Vas-y, pape.
Oui, OK. Je vais aller là-dessus parce que le défi est combattant beaucoup, mais tu compléteras ce que je vais dire. Mais oui, effectivement, le piège d'Alice, c'est ça. Le piège d'Alice, c'est de dire, bon, vu que c'est de la BD, vu qu'Alice est un roman trash, ben faisons la BD la plus trash possible. Ça, c'est le piège. Puis j'aurais pu tomber sur un dessinateur qui aurait juste vu ce niveau-là, c'est-à-dire le premier niveau, de dire, surtout, j'avais vu les dessins que Jake faisait, je savais qu'il était capable d'aller loin, on avait jasé ensemble, je savais qu'il aimait l'horreur, je savais qu'il aimait, bon, tu sais, on s'en rejoint sur beaucoup de choses. Fait que je me suis dit, bon, y a-tu le jugement, ce gars-là, de dire, oui, c'est bien beau faire du trash, mais faisons ça intelligemment aussi. Puis il l'a eu tout de suite. Là. Il m'en a parlé rapidement de ça. Il m'a dit ouais, Alice, ça pourrait être tout nu dès la quatrième page, puis on pourrait l'avoir baisé dès la cinquième page en gros plan, mais c'est pas intéressant. Il dit, mais c'est pas vers ça qu'il faut aller. Il dit, je pense qu'il faut que ça soit graduel, puis garder les grosses scènes hard, violentes et sexuelles à des moments importants où ça veut dire quelque chose, comme dans le roman d'ailleurs. Fait que ça, il a compris ça vite. Et il y avait aussi la sensibilité de dire qu'est-ce qu'on fait avec les scènes, parce qu'il y a une scène, entre autres, même deux, d'agression sexuelle. Il a dit, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Il dit, moi, j'ai pas le goût de dessiner en gros plan une agression sexuelle. J'ai pas envie de dessiner ça. Puis j'ai dit, ben, je te comprends, Jake. J'ai dit, je voudrais pas non plus que tu dessines ça. C'est parfait. Fait que, alors lui, il avait un beau défi de dire comment le faire comprendre sans que ça soit... magnifier. Hein? C'est tout ça le risque hein? De magnifier ce genre de... Fait que donc, non, oui, c'était un risque, mais j'ai été chanceux de tomber sur un dessinateur qui, oui, est prêt à en dessiner du sexe et du hard, mais faisons ça intelligemment. Puis je pense qu'on a trouvé cet équilibre-là. En fait.
Puis il y a aussi quelque chose qui est arrivé que je ne m'attendais pas. C'était qu'en commençant à illustrer Alice, c'était un gros projet, puis il grossissait de plus en plus. Au début, c'était supposé être comme 150 pages. Finalement, c'était 200. Puis là, finalement, aujourd'hui, au moment qu'on se parle, c'est entre 270 là, autour de ça. Mais c'est que à force de penser au personnage d'Alice, à force de la dessiner, tu la rends plus réelle un peu. Et plus je voyais ce qui arrivait, parce que je le connaissais, le roman, là, puis j'avais lu le scénario de Patrick, mais il y a une différence entre le savoir puis le sentir, là. Puis plus j'avançais dans les illustrations, plus je sentais, parce que ce personnage-là est devenu... Il est devenu très proche de moi. Tu sais, c'est devenu une blonde, c'est devenu une sœur, c'est devenu une amie, tu sais, c'est devenu une partie de moi aussi un peu. Puis là, j'étais comme, OK, je veux pas y faire vivre toutes ces affaires-là. En même temps, c'est là que le récit s'en va. Mm-hmm. Mais c'était de dire comment on peut illustrer ça d'une manière que c'est ça qui va rester, pas juste dans le bon goût, mais aussi
émotivement. Humaine, peut-être, ouais, c'est ça. Un certain humanisme encore à travers
ouais.
tout ça.
Puis tu sais, émotivement, tu veux pas montrer ta fille à la poêle d'un film en train de se faire battre, tu sais. Fait que y avait ce côté-là aussi que je m'attendais vraiment pas. Puis aussi, tu sais, ça, on a parlé quelques fois ensemble, mais l'idée du male gaze, l'idée du regard de l'homme qui veut se faire séduire un peu, ça, c'est très dangereux quand on parle de violence sexuelle parce que ça peut être maladroit, tu sais, ça peut être traité d'une manière que c'est supposé être affreux, mais finalement, c'est sexy, tu sais. Puis ça, on voulait absolument pas tomber là-dedans. Je pense que ça aurait cassé le ton du livre, puis ça l'aurait rendu vraiment vulgaire au lieu d'être intense émotivement, tu sais.
Oui, puis en fait, comme il était dit tantôt, il faut de toute façon qu'il y ait une distinction entre les scènes où le consentement n'est pas là, les scènes de viol, et les scènes où le consentement est là, où, par exemple, les scènes entre Mario et Alice, ben, il faut sentir, au contraire, qu'on est dans un vibe différent, qu'on est dans une ambiance différente. Puis si on n'est pas capable de faire cette distinction-là, ben, on perd aussi cet effet-là, on perd cette relation-là, finalement, qui est forgée à travers ces séquences-là aussi.
Oui, et puis même les scènes du palais où qu'il y a une méga partouze, je veux dire, tout le monde qui est là est consentant, là, je veux dire, même si Alice, elle veut se faire à croire qu'elle est willing, puis dans le fond, elle est pas si willing que ça, mais là, elle est sous la drogue en plus, mais il n'y a pas un moment dans cette scène-là qui est en train de se faire abuser, là, il n'y a pas un moment qui est prisonnière de ce groupe-là, fait que effectivement, on n'est pas dans le même, on n'est pas dans le même registre du tout, là.
Et on parlait d'attachement au niveau du personnage. En fait, peut-être d'emblée, pour ceux qui ne connaissent pas le récit, c'est un récit initiatique. On s'inspire un peu d'Alice au Pays des Merveilles dans l'esprit, dans la plongée un peu dans un pays merveilleux qui est dans les fins quartiers inconnus et réels de Montréal. Et dans le fond, Alice qui va se confronter, dans le fond, à différentes réalités dans l'objectif peut-être un peu de se découvrir elle-même. Un récit, en fait, qui est un peu, en fait, dans presque une logique d'autodestruction, dans le fond, où on a un personnage qui dit oui à tout puis qui se forge un peu aussi en réaction à toutes les expériences qu'elle s'inflige, dans le fond.
C'est un peu un coming of age, mais trash, en fait, Alice. C'est une adolescente qui devient adulte puis qui perd ses illusions. Puis c'est vrai ce que tu dis, moi je le présente souvent comme ça, elle dit oui à tout en pensant que la liberté c'est ça. Elle pense que d'être libre, elle vient d'avoir 18 ans, puis elle va être libre comme tout le monde de 18 ans, puis elle confond la liberté avec l'acceptation de tout, mais elle va finir par se rendre compte que d'être libre, c'est d'être capable de dire non aussi, c'est dans ce que tu refuses que tu te forges une personnalité aussi, c'est pas juste dans ce que tu acceptes, puis elle va finir par comprendre ça à la fin de cette histoire-là. Fait que oui, c'est un roman initiatique, c'est un coming of age, c'est Alice qui est brillante, mais qui a la naïveté de son âge et qui va subir les conséquences, entre guillemets. Et en même temps, même ça a l'air très rough, c'est peut-être pour ça que les jeunes, là, quand je suis jeune, je parle de entre 16 et 25 ans, ont beaucoup trippé sur le roman parce que je pense qu'au-delà de l'excès de l'histoire, de tout ça, je pense qu'ils reconnaissent un certain. Une quête. Je pense que la quête d'Alice se sont reconnus là-dedans, mais de façon moins élevée, j'espère. Là. Je pense que les jeunes n'ont pas besoin d'avoir vécu tout ce qu'Alice a vécu pour en arriver à un contrat, mais je pense qu'ils ont reconnu dans Alice leur même soif de liberté, leur naïveté aussi qui vient avec, et finalement leur constat au bout de ça que, bon, que parce que je le sais que ce roman-là a beaucoup de succès dans les cégeps et l'université, là. Je le sais, là. Ça fait assez longtemps qu'il est sorti, je le constate dans les salons du livre, je le constate quand je vois dans les écoles, je le vois sur Internet, je le vois dans les messages que je reçois. Il y a vraiment un public, les gens, quand ils découvrent ce roman-là à 20 ans, 18 ans, il se passe quelque chose. Là. Fait que manifestement, ils ont, au-delà du côté trash, ils ont vu aussi cet esprit initiatique-là un peu, je pense. Là.
Et Alice, c'est un personnage qui n'était pas tant décrit non plus, exemple physiquement, dans le fond. Donc, j'imagine que pour Jake, ça donne une belle liberté de trouver c'est qui ton Alice à toi, mais avec le défi justement de bien réussir à la trouver, parce que chaque lecteur se l'est un peu imaginé et approprié aussi à sa façon. Et c'est là un peu aussi que j'imagine que dans des contextes comme ça, où il y a un passage de « c'est le récit de Patrick Sénécal, mais c'est un récit que Patrick Sénécal doit laisser aller » pour offrir à un lecteur l'opportunité de l'interpréter à sa façon, puis que sa façon de voir le récit aille ensuite à la rencontre d'autres lecteurs comme moi.
Ben ça, c'est là où moi, j'ai vraiment trippé sur la collaboration parce que il y avait une espèce de... Tu sais, Pat, il me disait tout le temps, genre, c'est toi le réalisateur, là. T'sais, moi, je suis le scénariste, je suis là. Puis ça aussi, j'ai trouvé ça cool parce que au départ, Patrick était pas obligé de s'impliquer. T'sais, il aurait pu dire, OK, adapte-le, puis fais ton truc, puis on verra dans 2 ans ça ressemble à quoi. Mais dès le départ, tu m'as dit, Patrick... Genre, je veux l'écrire moi-même. T'sais, j'ai écrit des scénarios de films, je veux faire de la BD avec toi. Fait que juste d'avoir cet appui-là, t'sais, ça aurait pu virer entre les deux, là. J'aurais pu tomber sur un gars super control freak qui veut décider dans chaque case qu'est-ce qui se passe. Mais au contraire, c'était plus, je le sentais comme un appui de faire comme, OK, je suis avec le créateur là-dedans, je suis pas tout seul. Mais pour tout le reste, là, je veux dire, je me suis fait demander dans une autre entrevue, c'est quand la fois qu'on s'est pogné? On a-tu eu un conflit à un moment donné? Puis on a jamais vraiment vécu ça. Il y a peut-être un truc qu'on s'est dit, ouais, ça, OK. Puis c'était ça le conflit. Ça a été genre une phrase. Puis pour tout le reste, là, à part le personnage de la reine, que celui-là, on l'a travaillé plus. Là, parce que j'arrivais avec des versions, puis Patrick me disait, ah, c'est pas tout à fait ça. T'sais, c'est un personnage qui était plus dur à saisir. Ouais. Mais pour toutes les autres, même je pense à Alice, je pense que je te l'ai montré la première fois et tu as fait comme, ouais, c'est bon.
Oui, oui. Non, moi, il n'était pas question que. C'est sûr que je voulais avoir mon mot à dire après, mais je ne voulais pas encadrer Jake, je ne voulais pas l'enfermer dans des affaires très, très précises. Je voulais avoir son interprétation, justement, de mon histoire. T'sais. Fait que les personnages me disaient, propose-moi des choses. On travaillait à partir de ça, mais comme il a dit lui-même, la seule qu'on a travaillé un peu plus, c'est la Reine Rouge. Mais aussi, il n'était pas question non plus dans mon scénario que je donne des indications de cases, de mise en scène. J'ai dit, c'est ça que tu veux? Il dit, non, dis-moi, ça te dérange pas, j'aimerais mieux que tu m'envoies juste ce scénario. Puis j'ai dit, bon, c'est parfait, c'est comme ça que je le voyais. Comme quand j'envoie un scénario à un réalisateur. Je ne vais pas lui dire champ contre champ ou angle. Panoramique vers tel personnage. C'est pas moi le réalisateur. C'est pas moi le dessinateur non plus. Jake m'a expliqué qu'il paraît-il qu'aux États-Unis, dans les comics, le scénariste indique même les angles et tout ça. Ça m'a fait un peu freaker quand j'entends ça. Je fais, hey, my God, j'ai dit, pour un dessinateur, c'est quand même un peu control freak, tu sais.
Ben, moi, fait c'est que ça m'enlève 50% du fun de ma job, tu sais.
Oui,
moi,
ça
c'est
enlève...
ça que j'aime, tu sais, placer.
Ben, je comprends, j'imagine.
Le rythme, c'est
puis,
ça.
Puis je trouve ça niaiseux parce que tu t'enlèves, comme créateur, tu t'enlèves la chance d'avoir un autre regard. Tu sais, moi, c'est intéressant de voir Jake comment il interprète telle scène, comment le regard qu'il amène, tout ça. Je dis, s'empêcher d'avoir ça, c'est bête, je trouve. En tout cas, fait que moi, je croyais que c'était parfait comme ça, ce genre de collaboration-là, en fait. Là.
J'imagine que ça peut évoluer aussi, parce que tu disais, dans le fond, on envoie le scénario. Bon, pour le contexte, j'imagine, on part d'un roman de 500 pages. On parlait la BD autour de 270 pages. Le premier scénario, c'est quoi? C'est 200 pages, synthétiser l'histoire. Mais ouais, j'imagine qu'après ça, on la resynthétise. Puis...
Ben, c'est là que Jake intervenait, puis que c'était correct, parce que, bon, c'est lui, il connaît ça plus que moi, il a la BD. Fait que le premier scénario que j'ai envoyé, il dit, Pat, ça marche pas. Tu m'as envoyé un scénario pour une BD de 400 pages. Il dit, on peut pas faire ça. Je me doutais que c'était trop, mais j'aime mieux en envoyer trop puis qu'on coupe après que l'inverse. T'en avoir pas assez, puis là, tu te rends compte après que, ah, on a oublié ça, tu sais. Fait que, là, je vais tout écrire ce qui me passe par la tête en sachant que ça va être trop. Puis, fait que, il m'a dit, j'ai dit, inquiète-toi pas, on va te faire une autre version. J'ai fait une autre version que j'ai coupée. Il m'a dit, c'est encore trop long. Puis là, il a amené une idée. Et c'est la seule fois que j'ai fait « Ah ouais, justement, que j'étais pas sûr, mais que j'ai fini par dire « Ah, t'as raison. » Il y a un personnage, il y a trop de personnages, puis il faudra en enlever un qui est moins important pour la courbe dramatique d'Alice, puis il dit « Je pense que c'est Andromaque. » Fait que là, j'ai fait « Ah non, j'ai enlevé Andromaque, je crime, j'ai cool Andromaque, tu sais, puis là, ben, je sais, là, « Sometimes you have to kill your darlings, là, mais... » Et Jake m'a convaincu qu'il dit « Oui, elle fun, mais il dit... » De tous les personnages autour d'Alice, celle qui participe le moins à l'évolution d'Alice, c'est quand même elle. Fait que finalement, elle est là parce qu'elle est propriétaire du bar, mais tu sais, toute sa quête avec son enfant, son bébé, tout ça qui était important dans le roman, on l'a enlevé, puis quelqu'un qui n'a pas lu le roman, ça paraît pas là. C'est pas quelque chose qui vient empêcher l'évolution d'Alice. Fait que ce regard extérieur-là, j'en avais besoin. Parce que moi, ça m'avait dit « coupe un personnage beaucoup, Patrick ». J'aurais fait « oh mon Dieu, lequel, tu sais ». Fait que ça prend ce regard-là des fois pour dire « ah ben oui, c'est pas fou, je pense qu'il a raison ».
C'est aussi une affaire de, tu sais, c'est deux médiums différents. Hein? Fait que d'écrire dans un livre, elle se promène dans la rue pendant 10 minutes, c'est juste une phrase. En BD, ça prend des moments de silence. Puis je savais que ces moments-là étaient plus importants que certains autres éléments. Tu sais. Comme il y a un truc que Patrick fait dans son écriture qui est un espèce de build-up dans le dialogue. Donc, si quelqu'un dit « faut aller là », l'autre va faire « non » à cause de ça, ça, ça. Puis l'autre va dire « oui » à cause de ça, ça, ça. Puis là, ils vont se lancer la balle. Puis ça crée un « elle va-tu y aller ou elle va pas y aller? » En BD, ça... c'est juste des phylactères, fait que c'est pas un build-up, genre, ouais. On l'a pas le côté, genre, « Ah, vas-tu y aller ou non? » T'sais, fait que c'était beaucoup de trucs comme ça que je coupais de quand je voyais, « OK, c'est quoi l'information, dans le fond? » Mais si ça devient juste informatif, ben là, c'est super plate, parce que là, t'as une BD qui dit, « Là, il se passe ça, là, il se passe ça, là, il se passe ça. » Fait que j'aimais mieux enlever des bouts d'information, entre guillemets, pour laisser du temps. Tu sais, il y a beaucoup de cases qui ne se passent à rien techniquement, que c'est juste Alice qui marche dans la vue, où on voit une clôture ou un toit d'église avec une branche d'arbre. Puis ça, c'est, pour moi, c'est à cause du médium. C'est un médium qui est visuel. C'était plus important que c'est ça, certaines... c'est plate, là, je m'excuse pour les fans d'Andromaque. En même temps, j'ai tout fait pour essayer de la mettre là, plus c'est souvent. Puis même dans une des dernières pages, parce que dans le roman, il y a un gros build-up justement avec Andromaque à la fin. Tu te rends compte de ce qu'elle a fait, c'est terrible. Mais je l'ai mis là quand même pour les fans. Fait que pour les vrais fans qui ont lu le roman, quand ils vont voir Andromaque à la fin, ils vont faire « Ah, OK, c'est ça, elle a vécu ça. »
Il y a quand même un clin d'œil, il y a quand même des allusions comme ça qui font qu'on dit aux fans « Hey, on l'a pas oublié là, complètement. » Là, tout à fait.
Puis, élément qui est intéressant que tu amènes, Jake, dans le fond, c'est l'idée de faire vivre, de profiter des silences, parce que nécessairement, il y a un côté qui dans Alice qui ressort beaucoup dans l'ambiance, dans l'ambiance du récit, autant dans les choix que tu as fait sur le côté visuel et le noir qui est hyper saturé, tes pages qui sont à la limite un peu sales avec pratiquement de l'aquarelle qui a un peu coulé dessus, l'encre. Je veux dire, il y a un côté malsain qui ressort de ça, qui est nécessaire aussi pour le côté immersif. Ça, de ce côté-là, comment tu as construit peut-être aussi justement l'aspect visuel, l'aspect ambiant du récit?
Moi, j'avais l'air d'un débile, là. Je me levais le matin, là. Je me faisais un café. J'allais à ma table à dessin. Tous mes pinceaux, tout était tout croche, tout était sale, puis c'était voulu parce que je voulais salir les pages. Fait que tu sais, il y a des matins, là, que j'avais une page finie, puis je faisais juste tremper mon pinceau dans l'aquarelle, puis jeter des splashes d'encre, des splashes d'eau dessus pour faire découler ça. Puis si quelqu'un m'avait vu, là, on aurait dit que j'étais comme en transe, puis j'étais en train de quasiment détruire mon travail. Mais c'était une recherche qui était voulue parce que toutes mes autres BD avant étaient faites uniquement à l'ordinateur. Ouais. Puis les gens sont tout le temps surpris quand je dis ça, mais tu sais, Turbo Kid, Amos d'Aragon, Jardin mécanique, il n'y a jamais un crayon qui a touché à du papier là-dedans. C'est uniquement fait avec une tablette graphique et un logiciel informatique. Puis à cause du traitement d'Alice, j'étais comme, si c'est trop clean, puis que je salis, parce qu'il y a une manière de salir d'une manière digitale, hein, avec l'ordinateur, en rajoutant des textures, des trucs comme ça. Mais encore là, ça avait l'air trop contrôlé.
Parce que tu as commencé comme ça, Jake. Au début, tu voulais le faire à l'ordinateur, hein?
Ouais,
puis tu as changé d'idée en cours de route.
C'est ça. Puis même au début, notre plan, c'était de la faire en noir et blanc et rouge. Que le rouge arrive progressivement, puis à la fin, c'est juste des pages rouges. Puis finalement, quand j'ai commencé à faire les pages, puis tu sais, je me suis mis dans une position vraiment de danger, là. C'est-à-dire que des fois, j'avais une planche. Normalement, tu vas crayonner, tu vas faire des sketchs, tu vas, tu sais, comme essayer de tout calculer le résultat avant de le faire. Puis là, il y a des moments, tu sais, même de se mettre un peu en danger, là, tu sais, de détruire. Tantôt, Patrick disait kill your darlings, mais c'est un peu ça visuellement aussi. C'est que, tu sais, des fois, tu fais une case, puis là, tu fais comme « J'ai peur de salir ça, mais il arrivera ce qui arrivera. » Fait que c'était un peu de se pitcher dans le vide à chaque page. Puis ça, pour vrai, c'était super le fun.
Qu'est-ce que tu veux dire, Jake, que des fois, tu salissais des cases puis tu avais peur de la salir tellement qu'il faut que tu recommences au complet parce que ça aurait pu déborder, ça aurait pu...
Exactement. Tu sais, des fois, parce que tu n'as pas le contrôle, hein, tu sais, le chaos des coulisses et tout ça. Tu sais, ça peut arriver en plein dans l'œil d'un personnage que tu fais « Ah, fuck! » Fait que c'était à propos de tout ça aussi, là, l'ambiance de genre salir, mais aussi de contrôler le chaos un peu. Fait que c'était ça qui était le challenge, mais aussi qui était excitant.
Oui, puis qui rend vraiment fait où on sent qu'on est... Le côté l'ailleurs est un peu mis de l'avant là-dedans, puis autant aussi dans la présence des Noirs, bon, qui est quand même assez présente dans ton style. Là, je regardais par rapport au jardin à l'asile de Saint-Iscariote, ben, tu sais, les Noirs hyper saturés, tu avais déjà un peu exploré ça dans Turbo Kid aussi, donc à la limite, c'est un peu certains pans de couleurs, mais encore là, même les couleurs que tu utilises sont assez, à part le rouge, sinon, c'est des couleurs qui sont assez ternes. En fait, on sent qu'il n'y a pas d'issue dans ce quartier-là, dans le fond.
Oui, puis c'est ça, c'est qu'au début, quand les gens me demandaient « Ah, tu voulais le faire en noir et blanc ou en couleur? » Je disais que ben, ça va être en couleur, parce que techniquement, toutes les pages sont en couleur. Mais c'est plus des teintes que, tu sais... Le bout de l'arbre vert avec le tronc brun puis le t-shirt bleu. Tu sais, c'est pas des couleurs séparées comme ça. C'est plus... Tout est un peu mixé, tout est un peu mélangé. On joue plus sur la lumière puis que sur de la couleur, mettons, dans le sens traditionnel du terme.
Mais j'aime ça, Raymond, que tu dises ces effets de couleurs-là traduisent un peu fade, un peu qui remplissent pas bien ce qu'ils doivent remplir, qui sont un peu décalés, qui donnent l'impression d'un quartier où il n'y a pas d'issue, qui est pas... Puis c'est vrai, je trouve que ça marche avec effectivement l'ambiance de ce quartier-là, qui est pas bien coloré, qui est pas bien rempli, qui est toujours un peu à côté, qui est juste en toile de fond, une couleur un peu pas facilement définissable. Puis oui, ça marche très bien avec parce que c'est le regard qu'Alice pose sur ce quartier-là aussi que je trouve que Jake a bien traduit. C'est... Le roman est écrit au jeu. Alors, évidemment que, oui, on a mis des voix off dans le roman, dans la BD, je veux dire, mais c'était pas juste ça. C'est qu'il faut aussi que tous les dessins, même si c'est pas un regard subjectif, hein, même si on n'est pas dans l'œil d'Alice, mais il faut que tout ça représente la vision, comment Alice voit ce quartier-là. Et justement, ce côté un peu sale-là, décalé, mi-onirique, mi-réel, ben, ça marche exactement comment elle voit ça, parce que elle a beau faire sa toffe, elle a beau faire sa fille qui n'a pas de problème, c'est tout en contrôle. Elle ne l'est pas en contrôle. C'est chaotique. C'est un monde chaotique. Et dans son esprit, c'est le chaos qu'elle essaie désespérément de contrôler. Mais ce chaos-là doit se traduire dans le dessin, et sans que ce soit un dessin chaotique, on ne comprenne rien, mais dans la mise en page, dans les écoulements de couleurs, dans tout ça, ça traduit exactement l'esprit de la protagoniste.
Et j'aime bien la façon dont Jake décrivait sur l'approche du chaos qu'on intègre, parce que pour moi, dans ma tête, c'est difficile de faire chaotique. Je veux dire, l'esprit, naturellement, va aller s'organiser, mais si je te dis, fais-moi une mise en page chaotique, un peu des cases, on éclate le format... Il me semble que c'est pas évident de bien le doser non plus, puis de se laisser aller aussi à cette, j'irais entre guillemets, des organisations-là.
Je suis juste chanceux de ce côté-là parce que j'ai des grands maîtres qui m'ont informé puis qui m'ont inspiré sur comment rendre cette espèce de chaos-là lisible. Parce que le défi, c'est pas de faire du chaos. Le défi, c'est...
Non.
Ça soit lisible.
Exactement.
Parce que si tu fais juste de l'abstrait, puis tu fais juste comme pitcher des personnages n'importe où, c'est chaotique, mais tu peux pas lire l'histoire. Fait que je me suis beaucoup inspiré d'artistes comme John Turtleben pour Swamp Thing, puis un paquet de monde de même, là, Bill Sienkiewicz, Dave McKean, et c'est des gens que j'apprécie beaucoup parce qu'ils ont cette finesse-là, mais ils ont cette... Tout est éclaté, là, t'sais.
Et on parlait des personnages aussi. Patrick mentionnait que c'est beaucoup dans le récit à travers les yeux d'Alice. Et évidemment, chaque personnage a aussi leurs caractéristiques, leurs particularités. Vous avez parlé de la Reine Rouge. Je pense que c'est peut-être un bon exemple parce que c'est celui où il y a eu un peu plus de discussion. Donc, pour voir de quelle manière on en arrive à bâtir un peu ces personnages-là. Dans le cas de la Reine, j'imagine que le défi, c'est que c'est plus un personnage qui est chargé d'un point de vue charisme, d'un point de vue sensualité, sexualité, qu'un personnage qui est esthétiquement beau et de réussir à trouver un peu l'équilibre entre l'aspect esthétique puis l'aspect charisme, dans le fond.
Ben, c'est ça. Dès 51-50, Rue des Hommes, mon premier roman dans lequel elle apparaît, elle s'appelle Michel à ce moment-là. Elle s'appelle toujours Michel, mais là, c'est plus la Reine Rouge dans Alice. Elle est décrite comme, en tout cas, par le personnage principal, comme une fille qui n'est pas nécessairement... Elle n'est pas dans les canons de beauté. Là. C'est pas une fille qui préfère un mannequin ou qui préfère... Elle dégage une vulgarité certaine, un manque de classe. Elle n'a pas de classe, là. Elle n'a pas de classe du tout. Mais elle dégage une sexualité très, 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 très forte. Alors, ce mélange des deux-là, de faire une fille que tu as, excusez-moi d'être direct, mais c'est ça, que tu as le goût de baiser, mais que... Puis on le sait que dans la vraie vie, il y a des filles qui sont pas des canons de beauté, mais qu'on a le goût de baiser quand même. Mais faut quand même le rendre en dessin, ça, cette particularité-là. Il faut quand même qu'elle soit très, très sexuelle, pas super belle, pas non plus une laideronne, puis qu'elle dégage un pouvoir puis une assurance hallucinante. Fait que tout ça, c'est pas... Tu sais, dans un roman, c'est bien beau le décrire en mots, mais faire un dessin où que dans le dessin, tu vas sentir tout ça comme lecteur, c'est pas évident. Fait que oui, c'est pour ça qu'elle était plus touchée à travailler. Là.
Jake, tu l'as lancé plus chic sur départ, j'imagine? Ou
Ouais, exactement. C'est qu'au départ, au départ, elle était super belle, puis il a fallu que je la... Puis quand je dis belle, c'est vraiment dans le stéréotype.
Oui, c'est ça.
Tu sais, on a dû la transformer puis la remodeler de plus en plus pour justement pas y donner un look de belle-fille classique, là, de mannequin ou whatever. Puis je suis vraiment content du résultat. Je pense que ça fonctionne bien.
Oui, de réussir à rendre, parce que dans le fond, en plus, elle arrive, puis c'est un crescendo. Quand elle arrive, on est au paroxysme un peu du récit. On a été quand même assez loin. On va franchir nos dernières étapes. Donc, elle arrive aussi à un peu à l'explosion de tout l'univers d'Alice, au bout du compte, de toute cette réalité-là.
Le lecteur est dans la même impression qu'Alice. Alice, depuis le début, elle veut voir ce personnage-là et le lecteur aussi. Alors, évidemment, que quand elle arrive, il faut que ça soit quelque chose. Et en même temps, et ça, c'est comme dans le roman, quand Alice voit la Reine Rouge, sa première réaction, c'est de dire « C'est elle, la Reine Rouge? » Elle est un peu déçue, comprends-tu? Parce qu'elle s'attendait peut-être à un pétard, elle s'attendait peut-être à, tu sais, bon, en affaire de même, à une grande noblesse, la Reine Rouge, après tout, tu sais. Fait que de la voir de même, tu fais « What? » Mais en même temps, on va se rendre compte rapidement qu'elle dégage, qu'elle a une maudite drive, puis on l'installe dès la page. Puis dans le roman, ben, ils ne seront pas surpris de la voir de même, eux autres. Ils vont faire « Ouais, c'est ça, la Reine Rouge, c'est pas Claudia Schiffer, là, tu sais. » Là, je viens de trahir mon art. Claudia Schiffer, c'est les jeunes en bas de 20 ans qui m'écoutent, qui ont aucune idée de qui je parle, là, en tout cas.
De référence de 1991, c'est...
Et dernier point de structure que j'aimerais explorer avec vous, c'est dans le fond, dans la façon des chapitres aussi, où on ramène un peu à l'esprit conte, on fait des têtes de chapitres où on s'adresse directement au lecteur, où on recadre un peu le récit. Est-ce que ça s'est imposé rapidement dans la structure, ces éléments-là?
Oui, ça, c'est. On en a parlé au départ parce qu'il y a deux éléments clés de l'histoire qu'on a enlevés, qui est l'intro et la toute fin. C'est comme des gens qui commentent, qui parlent. Puis là, je me demandais au début comment illustrer ça. Puis là, finalement, on a décidé de l'enlever. Ouais. Puis là, on a rapidement parlé. On enlève-tu les pages chapitres aussi? Puis là, j'étais comme non, ça, je le vois, tu sais. Parce que dans le roman, c'est tellement décalé. Avec le type d'écriture, tu sais, c'est une écriture qui rappelle beaucoup Lewis Carroll ou un conte pour enfants.
Les contes, c'est ça. C'est vraiment la formulation des contes.
Fait que là, j'étais comme, OK, non, on va essayer de représenter ça visuellement de la même manière. Donc, c'est drôle, il y a quelqu'un qui m'a demandé si Alice était possible de se faire adapter pour tous, pour enfants. Pas Alice au Pays des Merveilles, mais oui. Alice au Sénégal. Ouais. Puis, tu sais, la question est un peu drôle parce que c'est beaucoup à la mode, là, de présentement, de prendre des trucs un peu dark, mais d'essayer de les introduire à une nouvelle génération. Ou, tu sais, j'étais que, ben, peut-être que ça pourrait se faire dans un style des années... Tu sais, comme les vieux cartoons des années 30, là. Ou, tu sais, puis si vous checkez sur YouTube, là, ces cartoons-là, c'est très morbide ce qui se passe. Là. C'est tout le temps à propos des gens qui se font torturer ou qui meurent, mais c'est raconté avec tu sais, du petit poppy jazz. Puis, Fait que c'était ça l'image que j'ai eue tout de suite. J'ai fait « Ah ouais, ça fit. » Puis honnêtement, j'ai un peu le fantasme de voir un cartoon de toute l'histoire d'Alice, mais racontée dans ce mode.
Avec ce type de dessin-là.
Ouais. Une autre idée peut-être pour les deux prochaines années.
Ah, ça, je vais donner la job à quelqu'un d'autre. C'est pas moi qui
me tape. Ouais, c'est ça. Toi, t'as juste l'idée, c'est tout.
Et donc, je le rappelle, Alice, donc l'adaptation BD est disponible chez Libraire depuis peu. C'est une première collaboration, outre les couvertures. Est-ce que, dans le fond, Swadjic, tu auras envie de replonger dans un autre ouvrage de Patrick Sénécal, ou est-ce que vous auriez envie de développer quelque chose d'original pour un éventuel autre projet, ou qu'Alice reste un peu cet objet unique?
On s'en est parlé, moi puis Jake, puis on s'est dit, on a eu assez de fun pour pas qu'on soit fermé à travailler ensemble à un moment donné. C'est juste que là, on n'a pas de projet pour l'instant. Puis on est occupés tous deux chacun de notre bord. Mais c'est sûr que l'idée de travailler ensemble un jour, en ce moment, on se fait « Ah, ça pourrait être le fun, ça pourrait vraiment être cool. » Fait que oui, c'est possible. C'est juste que là, on peut pas vous dire « Oui, oui, on a un projet, là, moi puis Jake, on veut faire ça. » On peut pas dire ça en ce moment. Mais c'est pas quelque chose de du tout impossible et non négociable et « Ah non, on ne travaillera plus ensemble » parce qu'on sait qu'il y a eu des cas comme ça. Mais c'est pas notre cas du tout. Faudrait juste trouver l'idée, faudrait trouver le temps, faudrait avoir un flash. Faut pas tomber dans le piège de tomber dans la... Profitons de ça pour faire quelque chose d'autre tout de suite. T'sais. Alice 2, il n'existe même pas en roman, mais faisons la suite de la BD. C'est bon, ça, faut pas aller dedans. Faudrait retomber sur nos pattes, finir nos projets qu'on fait là, puis à un moment donné, pendant une bière, se dire « Hey, on a-tu une autre idée? Ça pourrait être le fun? » Puis on verra.
C'est ça. Puis je pense que c'est ça la meilleure... manière de le voir, c'est que, tu sais, moi, j'aime bien gros l'idée qu'on parte, qu'on fasse chacun nos projets, mais qu'on se retrouve un moment donné. C'est ça. Mais quand l'idée va arriver, tu sais, j'aime mieux que l'idée arrive en premier que nous deux qui s'assisent et qui font...
Ouais. Qu'est-ce qu'on ferait bien, non? Ouais, c'est ça, exactement. Ouais.
Fait que, on verra.
Oui, surtout dans un cas comme Alice où on sent que l'idée arrivait à un point nommé si les éléments sont placés un peu naturellement.
Ouais.
Dans le fond, donc, vous le sentiez, l'énergie était là, donc... on ne peut pas nécessairement toujours retrouver à la demande ce type de synergie-là non plus.
Oui, exactement. C'est ça. Il ne faut pas forcer ça, en fait.
Et évidemment, on peut la mettre, je le rappelle, sous la main. C'est du côté de Front Froid et à lire. Patrick Sénécal, Jake Dion, merci à vous deux.
Merci beaucoup.
On poursuit toujours ici à La Vie en BD et on va plonger au fil des prochaines minutes dans une série de courts commentaires, de regards sur des parutions récentes de bandes dessinées. Quelques mots sur L'Alcazar de Simon Lamouret, bande dessinée qui est offerte du côté de Sarbacane. Un deuxième récit pour cet auteur qui, après nous avoir amené avec Bangalore, donc dans les rues de cette capitale, nous ramène dans une ville qui n'est pas nécessairement étrangère à celle qu'il avait autrefois dessinée, mais cette fois-ci qui nous offre plutôt un récit qui est centré sur un immeuble, sur la construction d'un immeuble, sur un travail de chantier. Donc, un récit choral qui s'appelle donc L'Alcazar, le nom de l'immeuble qu'on est en train de construire. Donc, un récit qui est évidemment ancré dans la réalité. Donc, Lamouret, lui, a vécu 5 ans du côté de l'Inde. Il a rencontré des gens qui ont travaillé à des chantiers similaires. Alors, c'est fort de cette expérience-là qu'il se lance dans la création de ce récit. Et donc, dans ce contexte-là, eh bien, qui va puiser dans ses expériences, dans les témoignages, dans les échanges qu'il y a eu pour nous offrir un récit qui, de toute évidence, est ancré dans cette réalité-là. Donc, nous ramène à un aspect, je ne peux pas dire documentaire parce que c'est pas l'esprit de ce livre-là, mais un aspect documentaire à cette œuvre-là. Je disais un récit choral également tantôt, puisque Lamouret fait le choix de mettre de l'avant l'immeuble et sa construction comme le cœur du récit. Et donc, il devient un récit mouvant où on suit différents personnages, mais où il n'y a pas, a priori, de personnage principal en tant que tel qui se retrouve au cœur du récit. Donc oui, il y a des personnages qui sont là un peu plus, il y a des personnages auxquels on peut s'attacher, des histoires qui résonnent particulièrement, Mais l'histoire de l'Alcazar, c'est d'abord et avant tout l'histoire de l'immeuble. Et donc, cet immeuble-là, on le voit un peu à travers le travail d'ouvriers qui sont pas nécessairement très qualifiés, qui viennent des villages vers la ville pour se bâtir une nouvelle vie, pour se trouver du travail. On les voit à travers le travail d'un contremaître qui essaie de faire sa place, qui est pas nécessairement très sympathique, un peu vautour à certains égards, à travers le gestionnaire du chantier qui lui a hérité de tout ça, hérité d'une affaire qui marche, qu'il essaie de préserver, à travers un ingénieur qui est en cours de formation, qui cherche un peu sa place à l'intérieur de chantiers comme ça. Donc vraiment, je reviens au terme, et c'est vraiment un récit choral où chaque personnage est amené quand même de façon intelligente, de façon fine, de façon réaliste, et où justement l'auteur quand même se contraint dans la quantité de personnages pour s'assurer justement que chacun ait l'espace suffisant pour vivre, pour évoluer, pour progresser, pour nous offrir un récit dans lequel on va être en mesure de se reconnaître ou à tout le moins de comprendre d'où il vient, comment il chemine, quel impact il va avoir un peu là-dessus. Et ce qui fait aussi qu'on amplifie, si on peut dire, la richesse du récit qui est proposé, parce que on va chercher une multiplicité de points de vue, on va comprendre, saisir, explorer la réalité de ces chantiers-là, mais à travers plusieurs regards, à travers plusieurs niveaux. Et donc, là-dessus, c'est très réussi. Donc, vous aurez bien compris que j'ai bien apprécié ce récit donc qui nous est amené du côté des éditions Sarbacane, un récit qui est dessiné de manière réaliste, donc des couleurs, des choix de teintes, entre autres l'orangé, le bleu, qui viennent prendre l'espace, prendre la place, mais nous offrir aussi une belle ambiance. On sent la couleur, la chaleur de ces régions-là. Donc, un dessin qui est efficace, un récit qui est efficace, qui est bien scénarisé, juste assez long pour qu'on saisisse un peu les éléments. On en prendrait peut-être un petit peu plus, mais en même temps, on en a assez pour bien saisir, et qui est quand même, en fait, assez volumineux. Là, on le voit, c'est aussi un très bel objet, ce livre-là. Donc, bref, une belle découverte pour moi, cet Alcazar, que j'aurais envie de vous recommander. Donc, pour son côté documentaire, pour cette valeur-là, justement, de nous faire découvrir, appréhender une réalité qu'on a peu l'occasion d'explorer à travers le médium BD, et pour voir et découvrir un auteur qui, d'un point de vue scénaristique, réussit justement à bien maîtriser son récit choral, à bien le garder centré sur la construction, sans jamais justement perdre l'aspect affectif pour qu'on tombe dans une lecture qui pourrait être purement contemplative. Donc bref, une belle recommandation, L'Alcazar de Simon Lamouret, c'est chez Sarbacane. Troisième tome de la série Jimmy Tornado, qui est arrivé il y a déjà quelque temps sur les étaux des libraires, donc série jeunesse du côté de Presse Aventure, une série jeunesse qui a été lancée il y a quelque temps déjà, donc troisième tome, mais en même temps, j'aurais envie de dire un peu le premier, entre guillemets, vrai tome de cette série, puisque le tome 1, le tome 2, on avait plus droit à des courtes histoires, des courts récits qui plaçait un peu l'univers de Jimmy Tornado. Donc, Jimmy Tornado, essentiellement, les aventures d'un frère et d'une sœur, pas nécessairement frère et sœur de sang, mais tout au moins du même père. Donc, objet d'expérimentation pour un, génie scientifique pour l'autre. Donc, le Jimmy Tornado du titre est quand même un gorille doté d'intelligence humaine et d'une grande, grande force. Donc, bref, les deux premiers tomes nous ont vraiment permis de placer l'univers. Des histoires courtes qui étaient très rythmées, parfois un peu trop rapides, mais ça fonctionnait bien, ça cadrait bien. On amenait aussi des dévoilements en cours de route. Donc, on avait l'impression vraiment de pouvoir progresser, saisir où cet univers-là voulait s'en aller. Mais on était bien curieux, en fait, je l'étais, bien curieux de voir de quelle manière maintenant on allait amener cet univers-là dans le contexte d'un récit plus longue forme, donc des récits à la structure plus classique, comment ça allait s'adapter. Et on se retrouve donc avec ce premier récit longue forme où l'on nous entraîne à travers une quête. On va aller à la découverte, dans le fond, de ruines étranges qui ont été trouvées au fond d'une caverne en Chine. Donc, encore là, on réussit à garder quand même le rythme très rapide des épisodes précédents. Donc ça, premier élément qu'on réussit à conserver. Je pense que ce rythme-là est important, surtout dans le contexte, dans le fond, d'un récit qu'on veut jeunesse, une série qu'on veut d'action, d'aventure. Ben, le rythme est bon, il est là. Appuyé par un dessin qui est clair, qui est précis, en fait, le récit qui est bien dirigé également. Il y a quand même beaucoup d'informations qu'on nous donne, mais si on a les deux premiers tomes, ben, on a déjà beaucoup d'éléments de contexte à travers lesquels on peut graviter, donc c'est facile d'appréhender ce troisième tome-là. Mais à l'inverse, j'aurais envie de dire, si des gens qui attrapent la série au troisième tome, au premier longue forme, c'est pas très compliqué de plonger dans l'histoire, quitte au besoin à retourner aussi dans les deux premiers. Donc, un récit qui est bien mené, qui est bien orchestré dans un contexte d'un genre qu'on voit pas tant que ça dans la sphère de la bande dessinée jeunesse. En fait, on l'a vu un peu avec certaines séries, donc on nous amène un peu vers la science-fiction. Mais j'ai l'impression que ce type de science-fiction-là, il n'y en a pas tant. Je parlais du dessin, ben, tu sais, ça reste donc quelque chose de clair, suffisamment expressif, ça fonctionne bien, très coloré aussi. Donc, encore là, quand on parle d'un récit, d'abord et avant tout pour la jeunesse, on parle de 8 ans et plus, ben, ça a les éléments pour fonctionner. Dans le fond, c'est clair, il y a une simplicité, il y a une direction, mais en même temps, il y a une richesse. Donc, on ne perd pas non plus en développant le volet jeunesse dans ce récit-là. Donc, il y a une richesse, il y a une mythologie, il y a des informations, il y a un contexte. Il y a une attention qui peut être nécessaire aussi pour aller profiter au maximum de ce récit-là, au-delà de l'ambiance, au-delà du rythme. Donc, enfin, un tome 3 qui, je trouve, vient placer de belle façon là, cette série-là dans la sphère de la bande dessinée jeunesse québécoise. Et qui fait que c'est une série qui, à mon sens, à laquelle on peut s'intéresser, dans laquelle on peut plonger en complément à d'autres œuvres et dans un contexte où on aurait peut-être envie de faire découvrir des récits plus de science-fiction ou d'action à justement des 8-12 ans ou un public plus vieux parce que, je dois le dire, j'ai quand même bien apprécié également cette lecture. Alors donc, on peut forer dans cette série sans crainte. Le tome 3 est à la hauteur des attentes. Donc, Jimmy Tornado, tome 3 aux portes d'Agartha. C'est de Frédéric Antoine et Jean-François Vachon. Et c'est du côté de Presse Aventure. On va parler brièvement des Boomeries, donc l'intégrale, le tome 1 de Boom. Les Boomeries, évidemment, qui est une longue histoire, en fait, bande dessinée web. Donc, Boom qui avait lancé un projet de BD, de blog, où elle racontait sa vie en BD, celle de son conjoint, celle de ses enfants éventuellement aussi. Donc, vraiment un univers qui, au fil d'à peu près une décennie de production régulière, s'est vraiment amplifié, s'est développé. A développé également une belle communauté autour de lui et éventuellement, toute bonne chose a une fin. Donc, on a conclu, je pense que c'est un peu plus tôt cette année, en 2019, donc en 2020, en fait, la série. Donc, on dit, ben regardez, ça va être terminé. Et certains albums qui restent évidemment disponibles dans leur première version. Donc, puisque c'était une collection et une série qui était auto-éditée par l'autrice, puisque c'était une série qui était auto-éditée par l'autrice. Et donc, ça veut dire aussi qu'il y a certains volumes qui n'étaient plus disponibles ou qui éventuellement ne seraient plus disponibles. Alors là, on a l'équipe donc de Glénat qui est arrivée avec cette idée, visiblement, donc d'une intégrale où on revient aux origines de la série et où, j'imagine, ben puisqu'on est devant un tome 1, ben qu'on offrira progressivement donc tout cet univers et cette décennie de bande dessinée sur le web. Donc avec l'intégrale tome 1, on se retrouve donc en 2011-2012 et on retrouve ben vraiment les débuts de ce blog BD là, un peu la mise en place, la construction, les premières évolutions et Boom le présente bien d'ailleurs en prologue et dit regardez, c'est vraiment et tout particulièrement dans le première partie de ce tome là, mais c'est quand même les moments où comme créatrice à travers cette série là, elle se cherche, un peu ce que va être cette série là, le ton à donner. Donc ce qui fait que peut-être un peu plus d'expérimentation dans la structure, dans la forme, dans le type de récit que ce qui va venir un peu par la suite et qui va se placer. Donc, on peut voir, en fait, évidemment, ce travail-là comme vraiment les bases, les pierres d'une œuvre beaucoup plus large et les débuts, les premiers pas d'une artiste qui vraiment va devenir en pleine maîtrise de son médium, de son travail au fil des années qui vont passer. Donc, à l'intérieur des Boomeries, on a une collection de strips, de co-récits, certains réalisés dans le contexte de défis particuliers, donc les 24 heures de la BD d'Angoulême, le 24-hour comic book day, donc des défis de création autant que dans les défis un peu auto-donnés dans la création web, donc pour animer un blog, pour animer un site. Donc, c'est plaisant, je trouve, justement, de voir progresser ce travail-là et de retrouver, surtout pour moi, qui a joint les lecteurs des Boomeries en cours de route par le biais d'une version web, de pouvoir revenir au début de ce travail-là, de le redécouvrir et de le redécouvrir à travers le papier. Donc, d'autant pour ceux qui n'avaient pas fait le saut vers le papier, mais c'est une belle occasion, justement, de replonger dans ces œuvres-là. Et je le redis, d'autant que ces œuvres-là ne sont plus disponibles actuellement. Donc, il y en a d'autres volumes des Boomeries qui, si on va sur la boutique en ligne de Boom, ben, on peut les avoir. Dans ce cas-ci, ce n'était tout simplement plus édité. Je trouve que c'est une belle façon de mettre en forme, de rassembler cette œuvre-là, d'offrir une certaine pérennité qu'on n'a pas nécessairement tendance à associer au web. Et je le redis, en fait, de plonger dans les débuts d'une artiste qui su faire sa place au fil des années, qui est démarré visiblement avec une belle maîtrise du médium, parce que c'est bon aussi, je veux dire, on rit, il y a des très bonnes séquences à l'intérieur de ça, donc qui a démarré déjà un beau niveau et qui va continuer à progresser au fil du temps. Alors, moi, j'aurais envie de vous dire, en fait, si vous avez envie de plonger dans les Boomeries et de recommencer par le départ, eh bien, nécessairement, c'est la porte d'entrée, donc désormais, cette intégrale des Boomeries du côté de Glénat. Et si vous voulez ben, voir un peu dans quel type de récit plonger, ben, évidemment, ces histoires-là sont aussi toujours disponibles sur le web. Donc, c'est une façon aussi d'aller forer, de se dire, ben, est-ce que j'ai envie d'avoir une relation d'objet, entre guillemets, avec ces histoires-là? Et si oui, ben, pourquoi pas, l'objet est là. Petite mention du tome 2 de la série Calf Boy, donc désormais série Calf Boy de Rémi Farnos. Donc, c'est du côté des éditions de La Pastèque. Rémi Farnos, je vais faire une longue parenthèse, mais personnellement, c'est un auteur que j'aime bien. Je l'avais découvert, entre autres, avec Alcibiade, avec le monde des végétanimaux. Et c'est vraiment un auteur qui aime jouer avec la structure des cases, avec l'esthétique des cases, avec la structure un peu du récit, des planches, la manière dont tout ça est organisé. Et dans chacun des albums, et j'inclus le premier Calf Boy là-dedans aussi, et le second, cela dit, ben justement, il y a une volonté ludique, presque, donc d'amener, d'organiser l'espace, d'organiser les cases, un jeu visuel et un jeu esthétique qui est plaisant, dans le contexte d'un dessin qui est, somme toute, quand même assez minimaliste. Donc, ça apporte un bel élément de surprise. Et d'album en album, ben il réussit à appliquer un peu cette approche-là, cette méthode-là, et à l'adapter un peu à l'ambiance qu'il souhaite transmettre à l'intérieur, justement, du récit qu'il propose. Donc, ça, c'est la première parenthèse. La deuxième parenthèse, je dois dire aussi que j'ai beaucoup aimé le premier tome de Calf Boy, donc qui était une relecture sympathique, drôle, amusante, originale de la sphère justement du western. On se retrouvait avec deux frères, deux frangins, un des deux qui a trop bu un beau soir et qui boit trop de manière régulière et récurrente et qui en est arrivé à perdre donc un trésor, un butin qu'ils avaient accumulé, donc il l'a enterré, on ne sait trop où, il l'a perdu. Et finalement, au fil de différentes aventures, finalement, on passait, le récit évoluait dans sa forme, dans son approche, dans son objectif. Et donc, au terme du tome 2, du tome 1, on ferme la parenthèse, on tombe dans le tome 2, mais on se retrouve immédiatement à la suite de ce premier tome où on poursuit cette quête initiale, donc qui est d'éventuellement réussir à retrouver ce butin-là et à tout mettre en œuvre pour réussir à s'en rappeler, une volonté qui va amener justement un des deux frères chez une chamane qu'il va rencontrer par hasard au fond d'une caverne. Et ensuite, ben de là, le récit va tranquillement débouler. Donc, j'aurais tendance à dire, évidemment, ben la grande question, c'est pas est-ce qu'il faut lire Calf Boy. Je pense que le premier tome, il faut le lire. C'est une belle BD, très réussie, solide, sympathique. Si on aime le genre western, eh ben je crois bien qu'on va apprécier la relecture qu'en a offerte Farnos. Donc, la question, c'est maintenant, ben, après Calf Boy 1, est-ce qu'on a envie de poursuivre avec cet univers-là, de continuer avec ce deuxième tome? C'est un deuxième tome qui n'existe pas en tant que tel, qui ne peut pas être considéré comme un ouvrage en solitaire. Donc, il faut absolument avoir lu le premier. Si on lit le premier, il n'y a pas d'obligation, par contre, de lire le deuxième, puisque quand même le récit, il y a une certaine clôture, ce qu'il n'y a pas dans le deuxième. Donc, on sent qu'il y aura, je parlais d'une série tantôt, mais on sent qu'il y aura un troisième, il y a une fin qui est quand même ouverte. Donc, il y a quelque chose qui doit venir après le deuxième, qui n'était pas nécessairement le cas du premier. Donc, le deuxième, lui, poursuit un peu dans la veine du premier. Et donc, pour répondre à la question que je me suis posée, auto-posée, dans le fond, oui, on peut le lire, oui, on va l'apprécier. Donc, si au terme du premier, on a encore soif de poursuivre dans cet univers-là, on a soif de cette relecture, de ce ton-là, eh bien, le tome 2 agit comme une belle extension. Donc, il n'y aura pas nécessairement de grandes idées nouvelles dans le contexte de la réinvention que Farnos offre qui vont s'ajouter là-dedans. On fait simplement poursuivre et amplifier le récit, prolonger le moment, prolonger l'instant, mais en restant maître du scénario, mais en gardant les éléments qui ont fait la qualité du premier tome. Donc, on n'est pas devant une œuvre inférieure, on est devant simplement un prolongement qui réussit à maintenir cette qualité-là. Alors, donc, si on a envie de prolonger le moment, je le redis, c'est le mot du jour, eh bien, on peut replonger là-dedans et retrouver, donc, avec plaisir le dessin minimaliste, les cases et la mise en page imaginative de Farnos, la manière par laquelle il a de présenter, d'organiser le récit. Donc, ça reste d'un point de vue visuel encore un récit qui est très, très beau, même si très simple en apparence, peut-être dans la facture des personnages. Donc, c'est très solide là-dessus. Donc, une recommandation avec Astérix, en fait, je le redis. Si on a aimé le premier qu'on a envie de prolonger, ben pourquoi pas poursuivre avec le deuxième. Je pense pas qu'on va être déçu, ça reste dans la continuité. Alors, nous sommes toujours à La vie en BD et ben, même si les activités en salle sont annulées pour cause de COVID-19, mais les rendez-vous de la BD, eux, se poursuivent de plus belle puisqu'ils sont désormais diffusés en ligne sur la page Facebook de la Maison de la littérature. Et le prochain rendez-vous, eh ben, il a lieu mercredi 11 novembre à 19h. Michel Giguère a choisi d'y présenter en supplémentaire donc la rencontre thématique Londres au 19e siècle. Et comme à l'habitude, ben, il est avec nous pour mettre la table autour de cette rencontre. Salut, Michel Giguère.
Salut Raymond, merci de me recevoir à ton micro. Eh bien, quand on parle de supplémentaire, ce que ça signifie, c'est qu'on reprogramme un thème, un exposé qui a déjà fait l'objet d'un rendez-vous de la BD. Et pour un, Londres au 19e siècle avait été présenté en novembre 2011. L'idée derrière ça, c'est d'alléger un peu ma charge de travail qui implique de générer chaque mois 1h30 à 2h de contenu, là, c'est pas rien. Sauf qu'au fil des années, le contenu de mes présentations s'est densifié, les projections sont devenues plus élaborées et l'ensemble, tout ça, ça s'est professionnalisé de sorte que lorsque je remets un thème au menu, c'est en bout de ligne autant d'ouvrages que de partir de zéro, je t'avoue. Parce que je mets à jour le diaporama en ajoutant plein de BD parus depuis la première version. Je restructure tout l'exposé parce que c'est plus à mon goût, ben, je trouve un angle, je trouve plus étonnant. Et je bonifie l'ensemble de tout ça. Conclusion, même les gens qui ont assisté à la mouture de 2011 vont en avoir plein la vue.
Et tu disais tantôt, Michel, tu l'avais présenté initialement en novembre 2011. Et là, on se retrouve 9 ans plus tard, en novembre 2020. Est-ce que c'est un hasard ou est-ce qu'il y a quelque chose dans cette période-ci de l'année qui est toute désignée pour parler du Londres victorien?
Ouais, ça ne tient absolument pas du hasard. Novembre est froid, humide, les arbres ont perdu leurs feuilles, on dirait des grands épouvantails. En plus, c'est le mois des morts. Ça crée tout ça un contexte assez lugubre, propice à se glisser dans l'univers londonien du 19e siècle. Qui n'était pas très jojo, hein? En tout cas pour une bonne part des gens qui vivaient à cette époque-là et pour une bonne part des œuvres qui ont été créées pendant cette période-là, qui vont des Hauts de Hurlevent au portrait de Dorian Gray. Et puis, ben, quand j'ai concocté la programmation d'automne 2020, je savais qu'on serait encore confinés dans notre pays, notre région, voire notre foyer. Ça fait que j'ai choisi des thèmes propres à nous changer les idées, à nous faire voyager. Et puis dans ce cas-ci, c'est oui, voyager dans un autre pays, mais en plus, c'est voyager dans une autre époque. Le hic, c'est que, ben, évidemment, ça, je ne pouvais pas prévoir, mais l'actualité m'a, pour ainsi dire, rattrapé, et pas par le biais de la pandémie, mais avec les attaques sordides qui ont eu lieu le soir de l'Halloween dans le Vieux-Québec. Évidemment, il était trop tard pour changer de thème, mais je tiens au moins à prévenir les gens sensibles que, sans me complaire dans la violence et la morbidité, d'ailleurs, je le fais jamais, eh bien, je ne vais quand même pas écarter les œuvres inquiétantes qui mêlent des menaces de mortelles puis des rues étroites d'une vieille ville dans le brouillard, parce qu'il y en a beaucoup trop, là.
Et justement, Michel, en fait, si on revient au thème comme tel, en fait, pourquoi Londres au 19e siècle? Est-ce qu'on pourrait presque dire que c'est un peu inattendu pour une rencontre sur la BD, ou au contraire, c'est quelque chose qui tombe un peu plus de source?
Bien, la réponse la plus probante que je peux donner, je vais vous la livrer mercredi prochain pendant 1h30, parce que la production parle par elle-même. Je ne suis pas historien, je vais en traiter en dilettante, comme d'habitude. Moi, je m'intéresse à l'histoire avec un grand H et je m'intéresse aux histoires. Et il se trouve que c'est un lieu et une période qui ont énormément inspiré les conteurs. Des conteurs qui écrivent des romans, qui tournent des films ou qui réalisent des bandes dessinées. En BD, plus particulièrement, j'ai été frappé presque une décennie après ma première présentation de ce thème-là par la profusion de séries puis de récits qui s'inspirent encore et toujours de l'Angleterre victorienne. Il y en a une pléthore, pour utiliser un beau mot.
Et peut-être, en fait, situons-nous d'entrée de jeu, là, un petit état des lieux pour cerner la Londres de l'époque.
Eh bien, quand j'avais fait mon rendez-vous de la BD sur la Première Guerre mondiale, j'avais mentionné que le 20e siècle avait commencé non pas en 1901, mais en 1914 avec la Grande Guerre. Eh bien, selon le dictionnaire Robert, l'époque victorienne court justement de 1815 à 1914. Donc, un siècle entier qui déborde évidemment le règne de Victoria comme tel. Victoria a été reine de 1837 à 1901, soit pendant 64 ans, ce qui est quand même très long. En comparaison, Élisabeth II est sur le trône depuis 52, c'est-à-dire depuis 68 ans, c'est quelque chose. En Angleterre, ça fait plus longtemps qu'elle règne que moi, je travaille à la bibliothèque, c'est quand même quelque chose. En Angleterre, le 19e siècle est une période caractérisée à la fois par une course effrénée à la modernité et par un profond conservatisme sur le plan des valeurs et des idées. Un conservatisme qui va tout de même être secoué par Darwin, Freud, Marx et puis par nombre d'écrivains. Mais quand même, la haute société puritaine, pour sa part, est en phase avec sa reine. Et en même temps, Londres est à l'avant-poste du capitalisme, de l'industrialisation et de la science qui se développent de manière exponentielle là-bas. C'est à l'époque la première ville d'Europe, l'une des plus grandes agglomérations du monde, qui est très polluée, avec de sévères problèmes de salubrité publique, et des inégalités sociales scandaleuses que l'industrialisation amenuise pas, bien au contraire. Ce qui soulève l'indignation des syndicats qui sont en plein développement, eux autres aussi, et qui soulève aussi l'indignation, par exemple, du romancier le plus populaire de son époque, Charles Dickens, ou d'un George Bernard Shaw qui dénonce le système dans ses pièces de théâtre. Et en dehors de son île, ben, Londres est par ailleurs la capitale et le poumon d'un empire qui règne sur les océans.
Oui, ou pour reprendre la formule Shaw qu'on connaît bien, c'est un empire sur lequel le soleil ne se couche jamais.
Mais le pire, c'est que c'était vrai. Hein? Un empire dont l'influence s'étend de la Chine aux Indes, puis ensuite à l'Égypte et à une bonne partie de l'Afrique noire, sans oublier ses colonies de peuplement, l'Australie, la Nouvelle-Zélande et, devinez, le Canada. Empire, finalement, qui va inspirer les écrivains voyageurs de la trempe d'un Rudyard Kipling, Joseph Conrad ou Robert Louis Stevenson. Le caractère impérial du Royaume-Uni s'inscrit, entre autres, dans les récits de fiction par la présence de domestiques venus des Indes ou de fumeries d'opium dans le quartier chinois, comme on voit souvent.
Et effectivement, quand on regarde un peu la production littéraire, on voit que même à l'époque, en fait, Londres était un terreau fertile pour plusieurs écrivaines et écrivains, que ces écrivaines et écrivains-là et leurs œuvres ont marqué l'imaginaire collectif. Et autant en Orient qu'en Occident, des œuvres qui sont devenues des classiques très populaires, qui ont passé les époques et qui ont été repris largement aussi par la sphère de la bande dessinée.
Oui, puis jusqu'en Orient, tu as raison. D'ailleurs, mon diaporama compte plusieurs mangas et manhwa qui s'inspirent du Londres victorien, comme Black Butler, le protectorat de l'ombrelle, ou Mary Godwin, et puis d'autres qui transposent carrément les classiques littéraires de l'époque. Ça va de Jane Austen à Charlotte Brontë. Oui, puis en même temps, c'est curieux de penser que la plupart des écrivains associés à cette époque-là se définissent en opposition aux valeurs dites victoriennes. On n'a qu'à penser à Dickens, à Shaw, que j'ai nommé tantôt, mais aussi à Oscar Wilde, lui, il va payer le prix, là, ou même les sœurs Bronté, l'air de rien, qui dénoncent quand même certaines choses. Et Karl Marx a écrit Le Capital à Londres, berceau du capitalisme. Peut-être que ceci explique cela aussi. Indubitablement, en tout cas, il s'agit d'une période et puis d'une ville exceptionnellement foisonnante, dont sont issus Oliver Twist, David Copperfield, Peter Pan, Dorian Gray. Et parmi ces incroyables classiques, il y en a quelques-uns qui ont généré d'innombrables versions et déclinaisons et variations. Il y a Frankenstein, Dracula, L'étrange cas du Dr. Jekyll et Mr. Hyde et Sherlock Holmes. Et puis à ces personnages de fiction très prodigues, disons, s'ajoute un personnage historique, mais anonyme, le plus célèbre tueur en série de l'histoire, Jack l'Éventreur, qui continue de fasciner puis d'inspirer les conteurs. Donc, je vais en parler. Il est incontournable, mais je vais essayer de le faire quand même avec délicatesse dans les circonstances actuelles. Et on parle d'adaptation d'œuvres littéraires, mais il n'y a pas que ça, puisque je vais intégrer également plein de personnages et de récits originaux qui ont été inventés pour la bande dessinée. Si le temps nous le permet, mercredi soir prochain, la présentation va se conclure par un segment steampunk bien garni, steampunk que je traduirais par futurisme rétro, mettons.
Oui, rétro-futurisme et autres champs lexical du même apanage. Et Michel, évidemment, il y a toujours une succession de planches que tu nous proposes dans les rencontres, des rendez-vous de la BD. Quand tu regardes la succession que tu as montée pour la présentation sur Londres au 19e siècle, qu'est-ce qui en ressort? Est-ce que les éléments qui sont peut-être un peu plus frappants?
Je dirais que c'est la richesse de tout ça. On parle, quand on y pense, là, d'une seule ville pendant une poignée de décennies. L'imaginaire du 21e siècle de notre époque est encore profondément puis durablement marqué par l'esthétique de l'époque victorienne et par plusieurs de ces œuvres-là aussi, et puis comme je disais, leurs multiples déclinaisons, clones et rejetons divers, là. D'ailleurs, en BD, les créateurs se permettent beaucoup de liberté, il n'y a rien qui les arrête. Ils ne gênent pas, entre autres, pour faire se croiser dans le même récit, mettons les écrivains Kipling et Stoker, Mr. Hyde et Frankenstein, Dracula et Holmes, ou bien Jack l'Éventreur et Peter Pan. Parfois, c'est tiré par les cheveux, mais amusant. D'autres fois, par exemple, quand Loisel propose un Peter Pan à la Oliver Twist, eh bien là, c'est on ne peut plus pertinent et fort. En même temps, plusieurs BDistes qu'on devine admiratifs de l'œuvre originale, ils sont très fidèles et c'est tout aussi intéressant.
Et dans le même registre, autre question, Michel, est-ce qu'il y a des sujets qui sont dominants ou des aspects récurrents?
Ben, paradoxalement, il y a autant de cohésion que de diversité. Cohésion dans le portrait d'époque, les décors, le mode de vie, les classes sociales, l'ambiance, les thèmes, et diversité dans les styles graphiques, dans le ton. Par exemple, à travers les sinistres individus qui rôdent dans le brouillard, il y en a plusieurs, mais il y a quand même à travers ça des bouffées d'air frais, d'humour très british, donc très flegmatique, avec Green Manor ou La fille du professeur, entre autres, et carrément quelques parodies de Baker Street à Orgueil et préjugés et zombies. Oui, oui, je ne l'invente pas. Et le corpus, comme la présentation de mercredi soir prochain, vont intéresser les bédéphiles, mais aussi les littéraires, les amateurs de genre dit, de l'imaginaire et les gens qui s'intéressent à l'histoire.
Et en terminant, Michel, tu me diras si c'est trop cruel comme question, là, mais est-ce que je pourrais te demander quelques titres à suggérer aux lecteurs dans ce foisonnement?
Hey, mon, si tu savais la quantité de titres que je vais proposer, là, ça va être un feu d'artifice très, très, très dense. Ce que je vais faire, c'est que je vais lancer des noms d'auteurs pour mettre l'eau à la bouche un peu plus. J'ai nommé beaucoup d'écrivains, mais là, je vais nommer des gens qui sont issus de la bande dessinée, là. Alors, pensez à Alan Moore, Mike Mignola, Lorenzo Mattotti, George Bess, Franck Le Gall, entre autres, qui seront là au rendez-vous mercredi.
Alors, mercredi, le 11 novembre, je le rappelle, donc thématique Londres au 19e siècle. Ce sera diffusé en ligne, en direct, sur la page Facebook de la Maison de la littérature. Donc, une belle occasion à ne pas manquer pour plonger dans ces rendez-vous de la BD et pour plonger donc dans cette époque et le foisonnement littéraire qui l'entourait à l'époque et qui l'entoure encore aujourd'hui, comme on l'a bien vu. Alors, Michel Giguère, ben, on se dit virtuellement à mercredi.
Et les gens qui ne peuvent pas être là mercredi, ce sera disponible en rattrapage après coup.
Eh bien, voilà qui conclut cette édition de La vie en BD. C'était Raymond Poirier au micro. Passez une excellente semaine et on se dit à la semaine prochaine pour une longue entrevue avec Denis Rodier.